Bonjour, je m'appelle Alexandre Lambert, je suis étudiant à l'école Jeanne d'Arc. J'ai 14 ans et je suis avec mes amis Nord et River et Charlotte, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Nous allons vous parler de la planète Terre sur plusieurs aspects, des catastrophes naturelles à Chamonix. Grâce à l'école Jeanne d'Arc, nous avons pu participer à ce projet, créer une émission radio. Merci à Madame Mère, prof de français, celle qui a pu nous créer ce projet, aussi avec l'aide de Madame Martin, professeuse documentaliste, qui nous a beaucoup aidés. Je passe la parole à Nord qui va se présenter.
Je suis en 4e, je suis un élève de Jeanne d'Arc. Et maintenant, je vais passer la présentation à River.
Bonjour, je m'appelle River, j'ai 13 ans et je suis un élève de 4e de Jeanne d'Arc. J'aime bien le vélo et explorer de nouvelles choses et les jeux vidéo.
Maintenant, Francis Cabrel, répondez-moi. À tout de suite.
Sans balcon, sans toiture, y a même pas d'abeilles sur les pots de confiture. Y a même pas d'oiseaux, même pas la nature, c'est même pas une maison. J'ai laissé en passant quelques mots sur le mur du couloir qui descend au parking des voitures, quelques mots pour les grands, même pas des injures si quelqu'un les entend. Répondez-moi. Répondez-moi. Mon cœur a peur d'être emmuré entre vos tours de glace, condamné au bruit des camions qui passent. Lui qui rêvait de champs d'étoiles, de colliers, de jonquilles, pour accrocher aux épaules des filles. Mais le matin vous entraîne en courant vers vos habitudes, et le soir votre forêt d'antenne est branchée sur la solitude, et que brille la lune pleine, que souffle le vent du sud, vous n'entendez pas. Et moi je vois passer vos chiens superbes aux yeux de glace, portés sur des coussins que les maîtres embrassent pour s'effleurer la main. Il faut des mots de passe pour s'effleurer la main. Répondez-moi. Répondez-moi. Mon cœur a peur de s'enliser dans aussi peu d'espace, condamné au bruit des camions qui passent. Lui qui rêvait de champs d'étoiles et de pluie de jonquilles, pour s'abriter aux épaules des filles. La dernière des fées cherche sa baguette magique. Mon ami le ruisseau dort dans une bouteille en plastique. Les saisons se sont arrêtées au pied des arbres synthétiques. Il n'y a plus que moi. Et moi je vis dans ma maison, sans balcon, sans toiture, y a même pas d'abeilles sur les pots de confiture, y a même pas d'oiseaux, même pas la nature, c'est même pas maison.
Les catastrophes à Chamonix. Vous êtes toujours sur Globe Radio 90.5 FM Chamonix Mont-Blanc. Maintenant, nous allons écouter la chronique personnelle de River, qui risque d'en intéresser plus d'un.
Bonjour.
De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Je vais vous parler de la guerre en Ukraine.
Comment est-ce que la guerre en Ukraine a commencé ?
Ça a commencé quand la Russie a envahi la Crimée en 2021. Ils prétendaient vouloir protéger les russophones qui y vivaient. Ensuite, les choses se sont compliquées lorsque les séparatistes pro-russes ont commencé à semer le chaos dans l'est de l'Ukraine. Ils ont déclaré des républiques indépendantes. Cela a conduit à un conflit armé entre les forces ukrainiennes et les séparatistes soutenus par la Russie. Puis, le février 24 2022, Poutine a déclaré le début de la guerre.
Comment le pays d'Ukraine a réagi contre la déclaration du début de la guerre ?
Le peuple d'Ukraine était très furieux contre cette déclaration de guerre, et leur pays tout entier s'est uni pour faire face à cette crise. Une évacuation a commencé et les militaires étaient prêts à défendre son territoire et son peuple contre le pays de Russes.
Quelle était la première ville qui était touchée par la guerre ?
La guerre a commencé sur la bordure du pays d'Ukraine, dans la ville de Kiev, et la Russie a commencé de prendre contrôle aux alentours de la ville et les bordures de l'Ukraine qui touchent la Russie.
Où as-tu vérifié tes informations ?
J'ai vérifié mes informations sur Wikipédia, invasion de l'Ukraine par la Russie depuis 2022 et Le Monde, guerre en Ukraine.
Dans l'univers, y'a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux.
T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part le vice, mais c'est toi que je veux.
Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Dans l'univers, y'a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Et même si notre amour raté devait renaître demain, elle m'a dit jamais je ne remettrai mon cœur entre tes mains. Jamais, jamais, n'oublie pas que quand tu l'avais, tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques. On était jeunes, on pensait que s'aimer c'était se traiter mal. Pourtant dans l'univers, y'a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
On se dégoûte, on se combat jusqu'à ce qu'on bouffe les pissenlits. Notre couple succomba, ce désir puissant puis s'ennuie. Et le désir disparaît en même temps que la possession. Et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession.
J'y passerai seul la nuit sous le trait d'un jeune homme qui quand la lune dort le soleil lui. Moi je ne vois qu'elle.
Y'a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Nos cœurs unis.
part cette danse que ta lumière peut apprendre à mon ombre. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom.
Vous venez d'écouter Dans l'univers de Nekfeu. Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM. Tout de suite, la chronique personnelle de Nord. Écoutez ça. Bonjour. Alors, vous allez nous parler de quoi ?
Je vais vous parler de l'enterrement du ciel.
De quoi ?
De l'enterrement du ciel.
Très bien. Il va peut-être me falloir des explications, car je ne vois pas comment on peut enterrer le ciel.
Je vois. Effectivement, il va falloir quelques explications. L'enterrement du ciel est une pratique funéraire qui consiste à placer un cadavre humain au sommet d'une montagne pour se décomposer lorsqu'il est exposé aux éléments ou pour être mangé par des animaux charognards, comme les vultures. C'est un aspect spécifique de la pratique générale de l'excarnation.
Rien à voir avec ce que l'on imaginait alors. Mais pourquoi faire cela ?
Parce que ceux qui le pratiquent croient qu'il n'est pas nécessaire de conserver le corps car il s'agit maintenant d'une vase vide. Les oiseaux peuvent le manger ou la nature pour le décomposer. La façon de la sépulture céleste est simplement de disposer des restes humains de la manière la plus généreuse possible. Rendre à la nature ce qui lui appartient, quoi.
Et peux-tu nous dire qui pratique cela ?
Les Chinois, les Indiens et Népalais pratiquent l'enterrement du ciel. Plus précisément, les pratiquants de la religion bouddhisme qui enseignent la pratique des transmigrations des esprits.
Et c'est une pratique encore d'actualité ?
Oui, on le pratique encore, mais cependant, le pratique continue de diminuer pour un certain nombre de raisons, notamment les restrictions à sa pratique à proximité des zones urbaines et sa diminution de nombre de vultures dans les districts ruraux. Je pense que c'est raisonnable que les pratiques à proximité des zones urbaines ont des restrictions, car personne n'a envie de voir un cadavre humain. Je trouve que c'est la meilleure pratique funéraire, car il n'y a pas de gaspillage et la nature reprend ce qui lui appartient.
Where have you gone? I'm getting
Vous venez d'écouter Somewhere on Limino de Keane. Quelle belle musique! Mais on passe tout de suite à l'interview de Nord.
Bonjour, je m'appelle Nord Eriksson. Je suis un élève de Jeanne d'Arc et je vais faire un interview sur les crevasses.
Bonjour, Ludovic Ravanel, je suis directeur de recherche au CNRS en tant que glaciologue et géomorphologue.
C'est quoi une crevasse?
Alors, une crevasse, c'est une cassure dans un glacier. La glace, c'est ce qu'on appelle un matériau viscoplastique. C'est un matériau qui est susceptible de se déformer jusqu'à un certain point au-delà duquel la glace va casser. Donc sur les glaciers alpins, par exemple, quand on a une rupture de pente sous le glacier, au niveau du substratum rocheux, la glace casse et ça crée une crevasse.
Combien de crevasses se forment environ par an?
Alors difficile de dire combien de crevasses se forment par an parce que les crevasses se forment toujours au même endroit. Donc ça va dépendre de la vitesse du glacier. Classiquement, un glacier à haute altitude, on peut dire qu'il y a une ou deux crevasses qui se reforment au même endroit au niveau d'une rupture de pente, par exemple, tous les ans.
Comment le mouvement des glaciers a un impact sur les crevasses?
Alors un glacier, c'est une masse de glace qui s'écoule sous l'effet de son propre poids. Et plus le glacier sera rapide, plus il va se crevasser parce que moins la glace aura le temps de s'adapter au terrain sous-glaciaire. Donc finalement, sur les parties les plus rapides, par exemple au niveau de la mer de glace, ça va être au niveau de la rupture de pente des séracs du géant. Dans ce cas-là, on aura effectivement beaucoup de crevasses qui vont se former tous les ans. Et au contraire, dans les parties les moins rapides, par exemple sous le montant vert, là on n'a quasiment pas de crevasses qui se forment parce que la glace, elle a le temps de se déformer.
Quels sont les dangers des crevasses?
Alors les crevasses, c'est des trous. Tant qu'on les voit, c'est bon, on peut passer par-dessus, on peut les contourner. Le danger vient surtout quand les crevasses sont couvertes de neige, c'est ce qu'on appelle des ponts de neige. Et ces ponts de neige peuvent être plus ou moins solides en fonction de la quantité de neige présente, en fonction de leur mode de formation. Donc finalement, le risque pour les alpinistes, c'est soit de passer une jambe à travers, dans ce cas-là, ils arrivent à s'arrêter, soit ils passent carrément à travers le pont, et dans ce cas-là, il faut être absolument encordé sur un glacier. Puis parfois, c'est malheureusement tout le pont qui s'écroule, et ça, c'est les situations les plus dangereuses.
Dans quelle saison il y a le plus de formations de crevasses?
Alors les crevasses, elles se forment tout au long de l'année. Elles vont se former évidemment plus facilement quand le glacier est rapide, c'est-à-dire l'été, quand il y a de l'eau sous le glacier. Au niveau des accidents, on a évidemment plus d'accidents dans les parties qui sont couvertes de neige, puisque dans la partie basse, on voit les crevasses. Donc on sera très attentif, par exemple, l'hiver quand on est à ski, et l'été, on sera surtout attentif dans les parties hautes des glaciers, puisque dans les parties basses, encore une fois, les crevasses se voient.
Comment les étés plus chauds des années précédentes impactent les crevasses d'aujourd'hui?
Alors, on peut pas dire qu'il y ait plus de crevasses avec le changement climatique. Par contre, le changement climatique fait qu'à la surface des glaciers, on a moins de neige. Qui dit moins de neige dit des ponts de neige plus fins, voire même absents. On pense par exemple à l'été 2022 qui a été extrêmement chaud, et bien y compris à 3004, 3005, 3600 mètres d'altitude. On avait quasiment plus de ponts de neige à la surface des glaciers, ce qui les rendait complètement infranchissables.
C'est quoi une crevasse ouverte et une crevasse fermée?
Alors, une crevasse ouverte, ça va être justement une crevasse qui est bien visible sans pont de neige. Une crevasse fermée, c'est celle qui dispose d'un pont de neige, auquel cas on ne voit pas directement la crevasse. Par contre, on a quand même des indices à la surface, des changements de texture de la neige, des changements de couleur qui peuvent indiquer la présence d'une crevasse en dessous. Et donc, les alpinistes, les skieurs devront être très attentifs à ça.
Il y a combien de types de crevasses?
Alors on a plusieurs formes de crevasses. Globalement, on en a trois. On a d'abord des crevasses transversales qui se forment par traction dans la glace. Donc ça, c'est plutôt au niveau des ruptures de pente. On a des crevasses longitudinales, c'est-à-dire parallèles à l'écoulement du glacier. C'est plutôt des crevasses qui se forment quand le glacier est capable de s'écouler un petit peu sur les côtés. Et puis on a des crevasses marginales sur le côté du glacier. On appelle ça des crevasses en chevron, qui se forment puisque la glace qui s'écoule va générer des contraintes contre le versant rocheux, si bien qu'on a des crevasses un petit peu particulières qui se forment au bord des glaciers. Et quand plusieurs familles de crevasses se recoupent, c'est à l'origine de séracs, c'est-à-dire des cubes de glace de très grand volume qui peuvent aussi s'écrouler et être dangereux pour les alpinistes.
Comment les crevasses fermées se forment?
Alors, les crevasses fermées, elles se forment comme toutes les crevasses. Par contre, c'est les ponts de neige qui, eux, doivent se former à la surface. Et un pont de neige se forme globalement de deux manières. Soit on a un vent qui est parallèle à la crevasse. Dans ce cas-là, ça a tendance à remplir la crevasse. Donc, plus qu'un pont de neige, c'est un remplissage de la crevasse. Et au contraire, quand on a un vent qui est perpendiculaire à la crevasse, dans ce cas-là, on va avoir formation d'une première couche de neige qui va s'étendre vers l'amont ou vers l'aval en fonction de l'orientation du vent. Et ça, ça va créer un pont de neige, c'est-à-dire que dessous, on aura un vide. Donc c'est une expansion d'une corniche d'un bord vers l'autre de la crevasse.
Merci.
Plaisir.
Je serai fatigué de sourire à ces gens qui m'écrasent. Quand je serai fatigué de leur dire toujours les mêmes phrases. Quand leurs mots voleront un éclat. Quand il n'y aura plus que des murs en face de moi. J'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Quand je serai fatigué d'avancer dans les brumes d'un rêve. Quand je serai fatigué d'un métier où tu marches ou tu crèves. Lorsque demain ne m'apportera que les cris inhumains d'une meute aux abois. J'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Jésus-Christ qui passe. Je prendrai ma guitare avec moi et peut-être mon chien.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du ski.
J'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Chez la dame de Haute-Savoie.
La Savoie, quelle belle musique de Francis Cabrel. On va pas s'attarder, on passe tout de suite à la chronique personnelle de Charlotte. Fan de skate, écoutez ça. Bonjour Charlotte.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du skate.
Et qu'allez-vous nous dire sur le skate ?
Eh bien je vais vous parler de l'impact du skate sur nous, comment ne pas se blesser et ma propre expérience avec ce sport.
Eh bien quel impact a le skate sur nous ?
Eh bien le skate peut apporter des bienfaits à notre corps. Par exemple il améliore la souplesse, l'adresse et l'équilibre. Pour ce qui est du mental, il peut nous faire prendre confiance en nous et il peut aussi nous permettre de nous vider la tête.
Eh bien, je devrais peut-être m'y mettre, mais je ne voudrais pas me blesser. Donc, que faut-il faire pour éviter de se blesser ?
Tout d'abord, il faut bien s'échauffer et bien mettre des protections, comme un casque, des genouillères, des coudières et des protège-poignets. Ça ne fera pas tout, mais ça pourra en limiter.
Très bien. Et quelle est votre expérience avec le skate ?
Pour moi, tout d'abord, ça m'a permis de me surpasser, de faire de belles rencontres, de visiter d'autres régions et pays. Tout ça est possible grâce à mon club, le Mosquette Club, qui propose des cours pour apprendre le skate et il propose aussi des stages pour aller essayer le skatepark et les spots de skate aux alentours. Ça nous permet de voir de beaux paysages, comme quand on est parti dans les Landes pendant l'été ou comme au mois d'octobre où nous sommes partis à Barcelone.
Ski parabolique, le style est diabolique, missile hypersonique, vitesse apocalyptique. J'ai un plus gros niveau qu'Alexis Pinturo. Je donne même des complexes à Candito Vex. J'envoie ta rémerde des backflips, Kevin Roland flip. Tu vas trouver ça étrange. Un jour j'ai doublé JB Gringe. Y'a 20 ans, j'mettais déjà deux secondes à Luc Alphard. Même en étant malade, j'mets un tour à Martin Fou. bourcades, très à l'aise dans la popo. Skieur pro, skieur pro, trop balèze car je fais des sauts. Skieur pro, skieur pro, DVA d'un sac à dos. Skieur pro, skieur pro, champion de toute catégorie, même en ski de rando. Je skie jamais les jours blancs, je suis pas un manchu. J'attends qu'il fasse beau temps pour attaquer le pentu. L'écart bien affûté, en mode opinel, booter en activé. Je vais me gaver bordel. Fucky, 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 direct un fucky. Fucky, 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 backcountry. Je switch et re-switch, je suis le roi de la piste. Cette glisse est un délice, j'impressionne les monitrices. Très à l'aise dans la popo, skieur pro, skieur pro. Trop balèze car je fais des sauts. Skieur pro, skieur pro, DVA dans le sac à dos. Skieur pro, skieur pro, champion toute catégorie, même en ski de rando. Gavage de bœuf, bœuf, de bœuf, bœuf. Mon gars je vais trop vite, je vais me faire arrêter par les keufs. Po 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 po, la neige est fraîche comme le blair dans le figo. Poudreuse à gogo validée par skieur pro. Posé au snow par poteau, le shaper a fait son boulot. Pareil pour faire vaisseau périlleux, direction les cieux. Taille, grab, mystiro, déo, mac twist, en mode énervé. Sur le big air, j'envoie les tricks.
360, 720, 1440, tendu comme une crainte, obligé pour que ça rentre. Même au bord d'un cross, je rentre au style atroce. Tout le monde valide mon niveau de Courchevel au 7 low. Très à l'aise dans la popo, skieur pro, skieur pro. Trop balèze car je fais des sauts. Skieur pro, skieur pro, DVA dans le sac à dos. Skieur pro, skieur pro, champion de toute catégorie, même un ski de rando. Gavage de bœuf, bœuf, de bœuf, bœuf. Mon gars je vais conduire, je vais me faire arrêter par les keufs. Pom 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 pom, la neige est fraîche comme le blair dans le figo. Poudreuse à gogo validée par skieur pro. Skieur pro, skieur pro, MM, snowboarder pro. Po 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 po, la neige est fraîche comme le blair dans le figo. Poudreuse à gogo validée par skieur pro.
Plutôt étrange cette musique, mais pas mal. C'était Skieur Pro de DJ Matafan. Mais on passe maintenant à l'interview de Charlotte.
Bonjour Charlotte, bien écoute, merci pour l'invitation à l'établissement Jeanne d'Arc pour répondre à tes quelques questions. Et pour me présenter, bien écoute, je m'appelle Éric Coursier, je suis originaire de Briançon, installé depuis maintenant une bonne vingtaine d'années dans la vallée de Chamonix. Et je suis accompagnateur en montagne, photographe, et je travaille également en astronomie avec un planétarium et des télescopes.
Déjà, pourquoi vous avez voulu exercer ce métier ?
Alors, le métier d'accompagnateur en montagne, c'est un petit peu le fruit du hasard pour moi. J'étais à l'armée dans les années 90 et un sergent avec qui je travaillais se lançait dans le diplôme et j'ai décidé de le passer avec lui. Et puis voilà, finalement, j'ai réussi un peu tous les examens et ce qui fait que je suis là aujourd'hui dans la vallée de Chamonix. Alors ce métier, on peut l'exercer de plein de façons possibles, en fonction de nos compétences, de ce que l'on a envie de partager avec les clients. Mais il faut d'abord réussir le diplôme et le diplôme que j'ai passé moi en 1999 a beaucoup évolué depuis. Mais en gros, il y a ce qu'on appelle un examen probatoire qui est un peu le droit d'entrer dans la formation. Il y a ensuite des stages à faire en situation sur le terrain avec un public et un accompagnateur déjà diplômé. Il y a de mémoire ce qu'on appelle un mémoire à écrire aussi, qui a un petit peu changé depuis que moi j'ai passé le diplôme. Et avant tout ça, il y a bien sûr d'autres examens passés, comme le tronc commun, qui est un brevet d'état, un diplôme, comment dire, commun à tous les diplômes sportifs, le brevet de secourisme aussi, pour être certain de pouvoir porter secours aux clients sur le terrain. Et notamment sur les stages en hiver, on a des stages de recherche de victimes d'avalanche où on doit trouver un nombre de victimes en un temps minimum. On a des cours sur la neige, on a voilà, des cours sur la météo, sur plein de choses.
Alors j'imagine que dans votre métier, vous avez déjà été soumis à des catastrophes naturelles comme des orages, des avalanches. Est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Alors, pour ce qui est de l'avalanche, j'ai eu la chance de jamais en croiser de trop près. Voilà, j'ai tendance à pas vraiment sortir ou à éviter les zones à risque, justement, quand le risque d'avalanche est important. Donc ça fait un petit peu partie de la logique, hein. On ne va pas aller se mettre en zone de risque Si le bulletin d'avalanche est annoncé même au-delà de 3 ou de 4, ou même par risque 2, hein, il n'y a pas de risque 0, hein, même le risque 1 peut être dangereux très localement. Donc on va vraiment prendre connaissance de tous ces bulletins voilà, qui sont édités par Météo France tous les jours. Et on va décider en fonction de ces bulletins, de la météo du jour, de l'état physique des participants, etc. On va choisir la zone où on va aller évoluer pour prendre le moins de risques possible. Après, pour ce qui est de l'orage, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on pourrait voilà, très bien se retrouver sur, par exemple, un tour du Mont Blanc en pleine montagne avec un orage imprévu. Et là, oui, ça peut être compliqué parce qu'on n'aura pas forcément quelque chose pour se mettre à l'abri. Donc on peut essayer de l'anticiper au mieux, mais ce n'est pas la solution miracle.
Donc à ce propos, j'ai quelques questions sur l'avalanche de Mont-Roc du 9 février 1999. Est-ce que suite à cette catastrophe, le risque d'avalanche est-il pris en compte autrement? Et si oui, comment?
Alors, cette avalanche a été vraiment exceptionnelle, un peu comme celle de Val d'Isère en 1970. Et notamment ces deux avalanches, et bien sûr d'autres, même à l'échelle européenne, ont conduit les pays et les communes à réviser un petit peu leur, ce qu'on appelle le plan d'occupation des sols, et aussi les cartes de prévention des risques, et notamment des zones d'avalanche, justement pour tenir compte de ces événements d'ampleur exceptionnelle que, heureusement, on ne voit pas trop souvent. Mais oui, à la suite de certaines catastrophes, comme celle de Mont-Roc, on fait évoluer, on espère vers le mieux, les cartes de localisation des risques, de prévention des risques, que ce soit pour les inondations, les avalanches, les chutes de pierres, voilà, ou les risques technologiques comme une explosion d'usine. Oui, les communes vont faire évoluer, avec l'aide de l'État, les zones où on peut s'implanter avec une maison ou un immeuble ou autre.
We had a hard time trying to figure it out, but we got it. Going to deal with it. We had a hard time trying to figure it out, but we got it. Going to deal with it. You with it. I'm pretty sure that you got your way.
vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM. C'était Dilouissi de Girly. Mais maintenant, passons tout de suite à ma chronique. Eh oui, les parents, vous devrez écouter ça. Effectivement, je vais vous présenter ce sujet, les jeux vidéo sur les jeunes. Beaucoup de parents voient leurs enfants jouer à des jeux vidéo, qui plus est, de plus en plus violents.
Effectivement, c'est pour cela que vous avez choisi ce thème pour nous. Passons à la première question. Est-ce que les jeux vidéo ont un impact sur les jeunes?
Alors je pense que tout le monde a la réponse. Effectivement, les jeux vidéo ont un impact sur les mineurs, ou même les adultes. Les jeux vidéo ont un impact sur la vie des jeunes, que ce soit psychologique ou physique. Cela affecte aussi leur vie sociale.
Donc ça veut dire que ça peut impliquer leur caractère?
Oui, et ça peut carrément affecter leur vie.
Cela affecte-t-il leur morale?
Oui, c'est justement la prochaine question.
Comment les jeux vidéo ont un impact sur leur morale?
Oui, la plus grande cause des dégâts est l'addiction. L'addiction est quand tu ne peux plus te passer de quelque chose à laquelle tu es addict. Tu ne penses presque qu'à ça. Ça, tu ne peux plus t'en passer.
D'accord, donc ça veut dire que ça peut impliquer leur avenir?
Alors oui, si la personne est trop addict, il peut abandonner toute raison de réussir. Cela engendre l'échec scolaire. De nombreux cas de jeunes qui échouent leur scolarité à cause des jeux vidéo. Ils ne veulent plus écouter, ils ne font plus leurs devoirs, ils ne pensent qu'à leur jeu.
L'addiction aux jeux vidéo peut-elle avoir une répercussion sur leur physique?
Les personnes addictes peuvent passer des heures à jouer sans penser à leur bien-être physique, voire leurs besoins vitaux.
Donc cela implique-t-il la nutrition?
Oui. En passant des heures devant, ils en oublient de manger, ce qui engendre la malnutrition.
Cela peut être aussi l'inverse?
Oui. Certaines personnes restent enfermées et ne mangent que de la malbouffe qui engendre des problèmes de surpoids. Je rajoute que l'une des plus importantes conséquences est l'isolation sociale. Ils ne parlent plus à leurs proches et sont dans des dépressions.
I keep my windows open, front doors broken, I lost my keys. I'm passed out on my futon, gave back your DVDs. It's been so long, but you're embedded to my thoughts. And all the songbirds sing sad songs, so how I cheated you so wrong. I stay up all night long, I see you on the TV. You're in my melatonin dreams. I put my health beneath me, but it's frustrating that we were meant to be. I'm wasted on the sofa watching time fly, wearing loafers on my feet. Restless cause I'm lost without you. Kinda awkward cause we live on the same street. You're in my melatonin dreams. My eyes can't read what's in between. Cause it's been all just make-believe, and all I see are fantasies. Cause I'm sipping on kava tea. Times. Once and for all, just let them go home. I know they still give you butterflies. I'm stuck in an awful state of mind. Let it be known that I'm alone, so lost from a romantic paradise. I see you on the TV. You're in my melatonin dreams. I put my health beneath me, but it's frustrating that we were meant to be. I'm wasted on the sofa watching time fly, wearing loafers on my feet. Restless cause I'm lost without you. Kinda awkward cause we live on the same street. You're in my melatonin dreams. My eyes can't read what's in between. Melatonin dreams. I put my health beneath me, but it's frustrating that we were meant to be. I'm wasted on the sofa watching time fly, wearing loafers on my feet. Restless cause I'm lost without you. Kinda awkward cause we live on the same street. Your eyes dance with me, just sweet home. Your eyes are jealous, sound and dreams. We're meant to be, but it's okay. My eyes are banged, I'm serious. Your eyes dance with me.
c'était Lover de Boy with Yuki. Mais passons cette fois à mon interview. Météo, montagne, c'est pour vous. De météorologue est-il un métier très répandu?
Eh bien, au début, il y avait mettons 50-60 ans, c'était pas très répandu et les gens qui s'occupaient de météorologie, ils étaient un peu pris pour des farfelus. Alors que maintenant, ça devient un sujet sérieux. On en parle tout le temps à la radio, à la télé, dans les journaux. Donc oui, c'est un métier assez répandu, avec une école de la météorologie qui permet aux étudiants de devenir météorologue au bout de quelques années.
Le métier que vous pratiquez est-il compliqué à comprendre?
Le métier n'est pas forcément plus compliqué, pas plus que celui de prof ou celui de médecin ou de celui qui fait le guide. Il y a une école, on apprend les fondamentaux et à partir de là, eh bien, quand on a réussi l'examen, on est lâché, comme on dit. Et à ce moment-là, on peut exercer le métier de météorologue, qui comporte d'ailleurs beaucoup de professions. Il n'y a pas que le métier de prévoir le temps, il y a beaucoup de recherches dans la météorologie.
Est-il important de regarder et surveiller les précipitations tout le temps?
Eh bien, évidemment, il faut regarder tout le temps. Les précipitations sont observées par le satellite, mais principalement par le radar. Et le radar nous donne l'importance des précipitations. Mais c'est important de surveiller ce qui se passe en permanence.
Les tempêtes sont-elles fréquentes en montagne et comment se forment-elles?
Les tempêtes sont aussi fréquentes en montagne qu'elles ne le sont au bord de la mer ou sur les plaines. La seule différence, c'est qu'on est en altitude, mettons à 4000 mètres, et bien là on est à l'intérieur de la tempête et c'est pas la même histoire. Les vents sont beaucoup plus forts, les phénomènes sont accentués en montagne évidemment. Mais on a tous ce souvenir de voir des tempêtes en plaine ou au bord de la mer où il y a des dégâts importants. Donc c'est aussi dangereux en plaine qu'en montagne, mais en altitude, c'est beaucoup plus impressionnant.
Sont-elles vraiment dangereuses et pourquoi?
Elles peuvent être dangereuses parce que les vents peuvent atteindre des vitesses de 200-300 km à l'heure. Cela arrive également lorsqu'il y a un cyclone. Hein. Lorsqu'il y a un cyclone qui passe sur les Antilles, on a des vents à 300. Mais en montagne, la différence, c'est le froid, la neige, l'orage. Tout ça combiné, ça fait quelque chose de vraiment dangereux. Moi qui travaille souvent sur l'Himalaya, lorsqu'il y a une tempête, il peut y avoir vraiment des dangerosités très très importantes.
Comment faites-vous pour les prévoir?
La prévision est entièrement réalisée par des ordinateurs. Les ordinateurs, depuis les années 50, eh bien, vont simuler l'atmosphère, c'est-à-dire que l'ordinateur, grâce à des équations dans lesquelles il y a différents paramètres, va résoudre ces équations et au final, ça va nous donner une prévision. Et moi, le prévisionniste, je vais interpréter les cartes de l'ordinateur.
Les tempêtes durent-elles longtemps?
Une tempête peut durer très peu de temps, un après-midi, mais ça va durer 24 heures, 36 heures, pas plus, parce que elles passent, les tempêtes, elles arrivent de loin, elles passent sous une région. Et ensuite, elle s'éloigne, donc ça dure, on peut dire, pas trop trop longtemps.
L'interview est avec Jan Giesendanner. Yeah, I can't do these long drives sitting in the backseat. Thinking about that one night when no work on fire. Baby, and your eyes brighten up this dark scene. You told me I would be. Fine, I called you a liar. Me, just FaceTime, is this a sign? I'm falling out of your life. I try my hardest not to think about what I just realized. You said I was your life. I think that's just a white lie. Feeling so rotten inside that I died. I kinda wanna go back. I'm missing the pain of a heartbreaking life. Just don't hit the same. I'm having migraines, my friends all over the place. With their life straight, I guess I'm afraid of growing out of my place. Cause I can't do these long drives sitting in the backseat. Thinking about that one night when the world caught fire. Baby, and your eyes brightened up this dark scene. You told me I would be fine, I called you a liar. And all I want is to take you by the sea. I'll show you sights from above and take you to my dismal dreams. I'll see the falling stars will set your world on fire. This fate's meant for you and me. You're make-believe, why can't you see? I'll make these roses all turn into seven seas. And all the ocean tides will fall into my dreams. And
I can't do these long drives sitting in the backseat, thinking about that one night when the world caught fire. Baby, and your eyes brighten up this dark scene. You told me I would be fine, I called you a liar. Yeah, I can't do these long drives sitting in the backseat, thinking about that one night when the world caught fire. Baby, and your eyes brighten up this dark scene. You told me I would be fine, I called you. You all damn day, and the sun is shining on your face. I think I fell for you. I hate the fact that this is the truth, but okay. I know I might come off as strange. I swear I'm not, I'm just in pain. Please don't drive away from me.
C'était Long Drive de Boy Wisuke. Encore merci de nous avoir écoutés, encore merci à Madame Mère et Madame Martin et à l'établissement Jeanne d'Arc de nous avoir permis de vivre cette expérience. Encore merci, passez une belle fin de journée.
Merci.